Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées sur France Culture Jacques. Et alors que vient de s'ouvrir le procès des attentats de janvier 2015, l'IFOP publie une enquête commandée par Charlie Hebdo. Elle analyse l'état de l'opinion en matière de liberté d'expression, de blasphème et de caricature.
Oui Clara, 59% des sondés considèrent que les journaux ont eu raison de publier les caricatures de Mahomet au nom de la liberté d'expression, ce qui représente une hausse de 21 points par rapport à 2006 lors de la première publication des dessins par le journal. À l'inverse, 31% des personnes interrogées jugent que cela constituait une provocation inutile, en baisse de 23 points. Quant aux Français musulmans, 69% condamnent et les croyants en général comprennent mieux l'indignation suscitée par cette publication, 32% contre 25% chez les non-croyants. La surprise vient des plus jeunes, les moins de 25 ans. 47% d'entre eux jugent que les journaux ont eu tort. Il faut sans doute y voir l'influence des discours de respect et de tolérance à l'égard des autres, qui se traduit chez les jeunes par une opposition de principe à tout contenu potentiellement offensant pour des minorités perçues comme dominées, analyse l'IFOP. Et cela dénote également une relative indifférence à l'égard de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, sans doute liée à l'influence des réseaux sociaux. Dans Charlie Hebdo, leur dossier revient sur le phénomène américain de la cancel culture, ou culture de l'annulation ou encore de l'effacement, et qui utilise beaucoup les réseaux sociaux. C'est le dernier avatar d'une censure venue non pas de la droite mais de la gauche, résume la journaliste, au nom des luttes des mouvements féministes, antiracistes ou pour les droits des personnes LGBT. Une forme de name and shame, mais ce ne sont pas seulement des propos qui sont condamnés, c'est symboliquement leur auteur qui doit être effacé. Pétition, cyberharcèlement, pression de toutes sortes pour réduire à la disparition sociale toute personne ayant eu des mots considérés offensants. Aux États-Unis, ça peut se traduire par des démissions ou des licenciements. L'Ordre aussi en donne plusieurs exemples, notamment dans la presse. Mais l'un des plus parlants est celui d'Adolf Reed, professeur émérite de l'Université de Pennsylvanie, soutien de Bernie Sanders et noir, qui devait intervenir devant le mouvement socialiste-démocrate pour expliquer que la gauche était trop focalisée sur les débats autour de la race, au détriment des questions d'inégalité sociale. Après des menaces de piratage de son intervention sur Zoom, les organisateurs ont préféré l'annuler. Cette forme d'ostracisme se développe aujourd'hui dans nos facs, comme lors de l'annulation à la Sorbonne de la pièce d'Eschyle, Les Suppliantes pour cause de blackface. Dans Le Monde, plusieurs tribunes ont récemment abordé cette question, ouvrant le débat. Un collectif de 150 intellectuels, dont les écrivains Salman Rushdie et Kamel Daoud, ou la journaliste féministe Gloria Steinem, ont dénoncé les dérives de la cancel culture, mais pour l'historienne Laure Murat, la politique du hashtag, c'est la protestation d'une population exaspérée, marginalisée et sans autre voix ni pouvoir que l'internet. Et pour Éric Fassin, faire honte, c'est discréditer des valeurs pour en accréditer d'autres plus démocratiques. La campagne contre la culture de l'annulation lui rappelle celle menée contre le politiquement correct. C'est bien la même complainte sur la tyrannie des minorités et le macartisme de gauche, sur la persécution des hommes blancs hétérosexuels. Le sociologue considère la pratique comme une technique politique et il demande qui annule qui, les manifestants qui déboulonnent des statues ou les policiers qui tuent impunément. Black Lives Matter et MeToo sont aussi des réponses à la valorisation de l'homme blanc sexiste et raciste par Donald Trump. Il estime que ces contre-publics minoritaires qui bousculent la sphère publique lui imposent une forme d'ouverture démocratique, d'autant plus nécessaire au moment où des médias font la part belle au discours d'extrême droite et qu'en l'occurrence, le terme de censure est trompeur. Pour interdire, il faut avoir le pouvoir d'interdire. Ne nions pas les rapports de pouvoir. Pour conclure provisoirement, voici une histoire de censure à l'ancienne que rapporte Marie Barbier dans Mediapart. Il s'agit du livre de Pauline Armange au titre provocateur « Moi, les hommes, je les déteste », mais dont le contenu l'est beaucoup moins. Un éloge de la misandrie contre la misogynie. Sans l'avoir lu, un chargé de mission au ministère de l'égalité femmes-hommes menace les éditeurs de saisir la justice si l'ouvrage n'est pas retiré de la vente dans une démarche, semble-t-il, personnelle, au motif que la provocation à la haine à raison du sexe est un délit pénal à suivre.